les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour. Dans sa série Les mots du protestantisme, Canal Académie a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Laurent Schlumberger. Laurent Schlumberger, bonjour.
Bonjour.
Quelques mots sur votre parcours pour que nous fassions plus ample connaissance. Vous avez déclaré « Je suis tombé dans la marmite du protestantisme historique étant petit. Avec ce protestantisme, j'ai pris quelques distances ensuite, avant d'y revenir, par un cheminement et une expérience personnelle. » Quelques mots d'explication ?
Je crois que c'est d'ailleurs le cas de beaucoup de protestants. En tout cas, pour ceux qui ont reçu une éducation marquée par le protestantisme, il y a toujours un moment où il faut prendre de la distance, aller voir ailleurs, faire du chemin, et on redevient éventuellement, ou on devient protestant par un itinéraire personnel. Ce n'est pas quelque chose qui se transmet sans qu'on fasse la démarche d'y plonger, car ça ne relève ni d'un rite à accomplir, ni simplement de valeurs à recevoir et à retransmettre, mais d'un saisissement de toute l'existence, de toute la vie. Et voilà, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai reçu une éducation, j'ai pris mes distances et puis j'ai été, si je puis dire, rattrapé par le col, par cette foi chrétienne protestante. Et paradoxalement, mais nous allons en reparler, c'est en étant rattrapé par le col et saisi, donc, que j'ai découvert de l'intérieur la liberté que donne la foi chrétienne.
Vous êtes théologien, Laurent Schlumberger, auteur, formateur, pasteur de l'Église réformée de France. Vous avez exercé votre ministère dans des paroisses variées. Vous avez été président, si je ne me trompe pas, du Conseil régional ouest de l'Église réformée de France pendant plusieurs années. On vous dit attentif aux questions de société. Vous avez été jusqu'à ce jour détaché auprès de la Mission populaire évangélique de France en poste au foyer de Grenelle à Paris, dans le 15e arrondissement. Vous êtes convaincu, avez-vous écrit, que c'est au cœur de la culture et des questions du monde contemporain que la foi chrétienne éprouve sa pertinence libératrice. Quelques mots peut-être sur cette Miss Pop, comme les protestants aiment à l'appeler familièrement.
La Miss Pop, en effet, mission populaire, hein, c'est un mouvement qui se situe dans une espèce de tension constitutive entre, d'un côté, l'évangile, cette parole que Jésus a incarnée et portée, et l'action sociale au milieu du peuple et avec des personnes qui sont marquées par des pauvretés, des manques de toute nature, que ce soit matériel, mais aussi culturel, mais aussi en papier, en logement, en dignité, en reconnaissance. Et donc, en effet, pendant quelques années, j'ai cheminé, j'ai exercé mon ministère au sein de cette mission populaire.
Alors, donc, d'inspiration chrétienne, protestante, mais résolument laïque. C'est un mariage, un mélange des intentions.
Je crois que les protestants, et c'est le cas à la mission populaire évangélique, les protestants sont attachés à la laïcité pour des raisons religieuses. C'est précisément leur manière de comprendre la foi chrétienne qui fait qu'ils sont attachés à la laïcité de l'État et à une certaine réserve, parfois, dans l'espace public. Ce n'est pas du tout le fruit d'une tolérance historique qui fait qu'une espèce de neutralité de tous garantirait la conscience de chacun, mais au contraire, c'est un attachement actif et militant en faveur de la laïcité qui marque beaucoup de protestants.
Et j'ai noté ces mots conformes à la charte de la mission populaire évangélique. Il n'y a de fatalité ni dans l'injustice, ni dans l'oppression, ni dans l'échec. Et donc, tous ceux qui travaillent dans ces perspectives à la mission populaire entendent contribuer à rendre habitable et fraternelle la terre habitée. C'est magnifique.
C'est magnifique et c'est très concret et très quotidien. D'un côté, on puise cette conviction dans le fait que le tombeau s'est retrouvé vide le jour de Pâques, le tombeau de Jésus. Et donc, d'une certaine manière, nous savons que la mort n'aura pas le dernier mot et n'a plus le dernier mot dans l'existence des humains. Mais d'un autre côté, dire qu'il n'y a pas de fatalité, c'est une sorte de constat. C'est-à-dire que dans bien des lieux, notamment à la mission populaire, nous constatons qu'il n'y a pas de fatalité, que la solidarité, que l'éducation populaire, que l'engagement, que la fraternité, ce sont des choses qui renversent des montagnes, qui permettent d'être de nouveau debout quand on a été à terre. Donc c'est en même temps une conviction que l'on jette à la face du malheur, si vous voulez. Mais c'est en même temps un constat d'itinéraire qu'on rencontre et qu'on croise bien souvent.
Et là, Laurent Schlumberger, on touche à un premier espace de liberté accessible à l'homme.
Alors tout dépend ce qu'on entend par liberté. La liberté, c'est un mot qui recouvre tant de réalités différentes, donc il faut savoir un tout petit peu ce qu'on met derrière. Évidemment, je ne suis pas libre de faire aller le soleil de l'ouest à l'est. Hein. Ce n'est pas de cette liberté-là qu'il s'agit. Il y a un premier sens qui est peut-être le sens le plus courant du mot liberté, c'est la liberté comme possibilité. Quand je suis, pour prendre un exemple très trivial, hein, quand je suis au restaurant, je peux prendre de la viande ou du poisson. Quand je veux aller au cinéma, ben à Paris, il y a beaucoup de cinémas différents. Si j'ai 10 euros en poche, j'ai une liberté considérable. Le compositeur, il écrit, il a la possibilité d'écrire la musique qu'il veut. Ça, c'est la liberté comme possibilité. Il y a un deuxième sens du mot liberté qui est la liberté comme jugement. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis dans l'isoloir un jour d'élection, eh bien, j'ai la liberté de voter pour qui je veux. Et face à une proposition morale, je peux être pour ou je peux être contre. Vous voyez, c'est ce que j'appelle la liberté de jugement. C'est moi qui décide tout seul comment je me situe. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit avec la foi chrétienne. Ce dont il s'agit, c'est d'une liberté de relation. Je prends un exemple très simple. Pensez à l'amoureux qui se sent pousser des ailes. Voilà, c'est de cette liberté-là qu'il s'agit. Pensez encore à l'enfant qui reçoit une langue maternelle et qui reçoit ainsi la possibilité de s'exprimer. Voilà, c'est de cette liberté-là qu'il s'agit. C'est-à-dire, non pas d'une liberté qui me laisse extérieur à ce dont il est question, mais au contraire une expérience forte, une expérience qui me saisit, une expérience qui me dépasse et qui me précède d'une certaine manière et qui m'ouvre alors une liberté. Je reprends mon exemple de l'amoureux. Si je suis en train de me dire « voyons, voyons, est-ce que je suis en train de tomber amoureux ou pas » et de peser le pour et le contre, c'est que je ne suis pas amoureux. Et c'est une fois que je fais cette expérience choc, cette expérience qui me prend et que je tombe amoureux, comme on dit, voilà, c'est ça qui me relève et qui me met en marche. La liberté de la foi, la liberté dont il est question dans l'Évangile, c'est cette liberté de relation que je ne choisis pas, mais qui me propulse dans un univers nouveau, dans un univers de relations nouvelles que je n'aurais jamais découvert si ce n'était pas un autre qui m'avait saisi.
Et oui, parce que là, l'amoureux est conditionné par son relationnel avec l'autre. C'est un sentiment qui le propulse, qui lui donne des ailes, comme vous le disiez, mais en fonction de l'autre.
Voilà, c'est quelque chose qui lui arrive. Ce n'est pas quelque chose qui décide froidement de l'extérieur. La liberté, elle a toujours besoin d'un cadre. Le poète, pour stimuler sa liberté créatrice, il se donne des contraintes de rimes, de pieds, etc. L'oiseau, il a besoin de la résistance de l'air pour pouvoir voler. L'équipe de foot, elle a besoin d'un terrain délimité pour pouvoir jouer. Sinon, le jeu est tout simplement pas possible. Il n'y a jamais de liberté absolue. Et la liberté dont on parle dans l'Évangile, dans la relation avec Dieu, c'est quelque chose qui m'est donné, que je ne choisis pas, je suis placé dans ce cadre-là, qui m'est donné, et à l'intérieur duquel je découvre une épaisseur insoupçonnée dans les relations et dans mon existence. Ce n'est pas la liberté de choisir une relation, c'est la liberté qui naît dans une relation nouvelle.
Schlumberger, je signale que vous avez quitté la mission populaire et que vous venez d'être nommé président de l'ERF, l'Église réformée de France. Pour conclure cette émission, je voudrais vous donner lecture de quelques phrases de grands esprits qui ont eux aussi travaillé, réfléchi autour de ce mot « liberté » que vous nous avez proposé au cours de cette émission aujourd'hui. « La liberté existe toujours, il suffit d'en payer le prix. » Henri de Monterland. « La liberté commence où l'ignorance finit. » Victor Hugo. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, la Déclaration des droits de l'homme. Parler de liberté, c'est parler d'ingérence. À long terme, cela débouche sur un monde merveilleusement organisé où tout fonctionne bien parce qu'il n'y a plus de liberté pour personne. Albert Jacquard. Il est certain qu'en lisant, en réfléchissant, on augmente sa faculté de penser. Pourquoi n'augmenterions-nous pas de même cette faculté qu'on nomme liberté ? La liberté sera-t-elle le seul attribut de l'homme que l'homme ne pourra pas augmenter ? Voltaire. En fait, nous sommes une liberté qui choisit, mais nous ne choisissons pas d'être libres. Nous sommes condamnés à la liberté. Jean-Paul Sartre. La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent, Montesquieu. Le problème de la liberté ne regarde pas l'homme, il ne regarderait que Dieu, Jean Rostand. La liberté de ne pas être libre est peut-être aussi une forme de liberté. Elie Wiesel. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. Jean-Jacques Rousseau. Je ne crois point au sens philosophique du terme à la liberté de l'homme. Chacun agit non seulement sous une contrainte extérieure, mais aussi d'après une nécessité intérieure. Albert Einstein. La vraie liberté consiste à réaliser et à accepter le fait qu'il n'existe pas de réponse parfaite. Allen Reid McGuinness. Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Jacques Prévert. Et pour terminer, si l'homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout. Albert Camus. Il y a une pensée qui est la plus proche de la vôtre?
Écoutez, il y en a beaucoup avec lesquels je résonne, soit en phase, soit en opposition de phase, si je puis dire. J'ai notamment été sensible à cette phrase fameuse de Jean-Paul Sartre, qui dit que nous sommes condamnés à la liberté, qu'on ne choisit pas la liberté.
Ça vous parle comment, ça?
Peut-être qu'une part de l'origine de cette réflexion vient des ascendances protestantes de Jean-Paul Sartre, puisqu'il avait un grand-père qui était pasteur.
Alors
je ne sais pas si ça a joué ou pas, mais c'est au fond ce qui nous est dit dans l'Évangile, dans la Bible.
Oui, mais il en souffre, on dirait qu'il en souffre, on dirait qu'il le regrette, on dirait que ça le tenaille. Oui, l'éclairage, la lumière.
Il en souffre comme Luther disait qu'il souffrait Dieu. C'est-à-dire qu'en effet, nous ne choisissons pas la liberté, comme nous ne choisissons pas notre langue, comme je le disais, mais c'est ça qui ouvre le champ des possibles de manière presque illimitée. Bon, on sait l'importance de la liberté pour Sartre à travers toute son œuvre et à travers ses engagements. Donc il faut bien se rappeler que c'est Jean-Paul Sartre qui dit cette phrase, c'est pas n'importe qui. Et bien voilà, je trouve dans cette phrase ce paradoxe qui fait que la liberté, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous ne nous appelons pas nous-mêmes à la liberté. Nous y sommes appelés et laissant cet appel résonner en nous, alors à ce moment-là, la vie dans toute son humanité la plus épaisse, la plus profonde et la plus promise, si je peux dire, promise à un avenir ouvert, c'est à ce moment-là qu'elle peut se déployer. Et puis j'aime bien la phrase de Jacques Prévert qui met en tension liberté et vérité. Parce qu'elle me fait penser à cette parole de Jésus selon l'évangile de Jean, qui dit à ses disciples qui n'y comprennent rien d'ailleurs, mais qui entendent et qui ont retransmis ça ensuite, Jésus leur dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et j'entends là cette idée selon laquelle la vérité et la liberté reçue, c'est un point d'appui sur lequel on peut se fonder pour soulever le monde entier et pour soulever les fatalités. Là aussi, il faut se rappeler qui dit ce mot, c'est Jésus. Jésus qui marche vers la croix, Jésus qui marche vers la mort, donc Jésus qui marche vers le contraire de la liberté, où il sera entravé, où il sera cloué, c'est le contraire de la liberté. Mais c'est par ce chemin-là qu'il montre à ses disciples que sa parole les a conduits sur un chemin de liberté totale.
Laurent Schlumberger, je rappelle que vous êtes président de l'ERF, l'Église réformée de France. Merci d'avoir réfléchi autour du mot « liberté » devant les micros de Canal Académie. Merci encore.
Merci.
The needed time now is the need.